tout de suite sur Radio Saint-Fée, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores.
Des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.
Espace d'espèces, une série documentaire de Lucie Combes et Aurélien Caillot.
C'est un doux tapis humide, une sorte de forêt miniature où se glissent les gouttes, s'incrustent des champignons et vivent des tardigrades. Mais c'est aussi parfois une moquette rêche qui cuit au soleil. En tout cas, c'est toujours si petit qu'on n'y prête pas attention. Pour observer les mousses, arpenter ces mondes si variés, minuscules, merveilleux et changeants, il faut se mettre à leur hauteur, croquer le biscuit magique d'Alice, rétrécir et se laisser surprendre. Commençons par ces petits coussinets verts de moins d'un centimètre de haut que vous pouvez facilement trouver ici ou là. Laissez-vous guider. Vous êtes prête ? Bienvenue dans le monde de ce qui pull des murs, Tortula muralis, une des mousses les plus communes en ville où elle se plaît. Il n'y a pas à dire, c'est humide et dense par ici. Faudrait des bottes, voire selon les moments, une combinaison de plongée. Glissez-vous entre ces touffes de feuilles en forme de langue serrées les unes contre les autres autour de la tige. Quelle finesse ! Si vous portez le regard tout au bout, vous apercevrez une petite pointe argentée. Une des particularités de la barbule des murs. Et en deçà de cette texture moelleuse où vous avez vos pieds, ne vous attendez pas à trouver des racines. Comme toutes les autres mousses, elles s'ancrent au sol grâce à ce qu'on appelle des rhizoïdes. Car les mousses, comme tous les bryophytes, le groupe auquel elles appartiennent et qui comprend aussi les hépatiques et les anthocérotes, sont ce qu'on appelle des plantes non vasculaires. À la différence d'un arbre ou d'une pâquerette, elles n'ont ni vaisseau, ni sève, ni racines pour puiser des ressources dans le sol. Mais elles ont ces rhizoïdes, des sortes de minuscules filaments qui leur servent à se fixer à leur support. Pour le reste, elles se débrouillent en absorbant l'eau et les substances nutritives à la manière d'une éponge, directement dans leur tissu, par leurs tiges et leurs feuilles. Notez donc qu'elles ne font de tort ni à l'arbre ni à l'herbe sur lesquelles elles s'installent. Simplement, cette caractéristique a l'avantage de les rendre moins exigeantes en termes de substrat. Et si elles ont chacune leurs préférences, troncs, blocs calcaires, de craie, briques, goudron, terre, parfois même déjections canines, on trouve des mousses dans le monde entier et dans tous les milieux, même aquatiques, à l'exception des milieux marins. Vous aurez peut-être vu, au-dessus des feuillages, se dresser une sorte de tige, toute fine, avec à son extrémité une capsule oblongue, un genre de petit sac. Eh bien, ce n'est pas exactement une tige, mais une soie. Et chez les barbules des murs, elles sont dressées bien plus haut que l'extrémité des feuilles, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en fonction de l'humidité et de la période, elles arborent des couleurs allant du vert au brun rougeâtre. Soie et capsule sont une des parties reproductrices de la plante. Et c'est dans les capsules que sont contenues les spores. La vie sexuelle des brins de mousse n'est pas simple, mais retenez qu'elle se fait par dispersion de spores, comme pour les fougères, et non par graines, comme pour les plantes à fleurs. Elles peuvent aussi se reproduire de manière végétative, par simple multiplication d'elles-mêmes. Un grand classique chez les plantes, dont les jardiniers savent tirer profit pour cultiver notamment les fraises et les patates.
Droit devant ! Un tardigrade là-bas, sur un brin de mousse !
Tardigrade, marcheur lent. Il porte bien son nom, celui-là. On dirait un ours mutant miniature et maladroit. Il doit mesurer max 1 mm, comme beaucoup des habitants des mousses. Car on se le figure mal, mais elles abritent de nombreux animaux. Petits insectes, collemboles, nématodes et même des rotifères. Ça ne vous évoque peut-être pas grand-chose, c'est un monde trop minuscule. Mais ces bêtes-là contribuent à la biodiversité des sols, en aidant à disséminer et réguler les micro-organismes bien plus petits que les mousses, ce qu'on appelle la microflore, et en participant à la circulation des nutriments essentiels aux végétaux.
Et ce n'est pas tout. Certaines espèces de mousses permettent à des phasmes, mantres religieuses ou grenouilles de se camoufler. Parce que les oiseaux rôdent, entre autres prédateurs, et menacent. Certains viennent même se servir tranquillement dans les tapis, coussins, touffes ou trames de mousse pour fabriquer leur nid. Le troglodyte mignon en est un spécialiste. Mais les petits mammifères que sont les loirs et les écureuils ont eux aussi bien saisi l'utilité des bryophytes pour la fabrication d'un nid douillet. Mais curieusement, il semblerait que personne ne s'en nourrisse. Quant à savoir si c'est qu'elle est toxique, indigeste ou si ce sont les autres qui le sont, mystère. Ça y est, la rosée du matin s'est déjà évaporée. Vous sentez ? Il fait un peu plus chaud et le paysage a légèrement changé. C'est maintenant un brun grisâtre qui l'emporte sur le vert et tout semble se rétrécir. Les feuilles se sont légèrement enroulées sur elles-mêmes. C'est sec ! Quel tableau ! On se croirait soudain dans la garrigue. S'ils affectionnent les milieux humides et ombrageux, les amphibiens du monde des plantes, comme on appelle parfois les bryophytes, sont tout à fait capables de résister à la sécheresse. Tout comme les lichens, une mousse sèche n'est pas forcément une mousse morte. Car elles peuvent perdre jusqu'à 90% de leur eau et se tenir, pour certaines, jusqu'à plusieurs dizaines, voire centaines d'années dans un état de déshydratation, de dessiccation, disent les scientifiques, en attendant des jours meilleurs, plus humides. Faites le test. Quelques gouttes d'eau peuvent suffire à relancer la photosynthèse. Ce phénomène s'appelle la reviviscence. Les mousses tiennent leur dépendance à l'eau d'il y a environ 500 000 ans. Car oui, elles nous viennent du tout début de l'histoire de l'évolution végétale, après que les algues soient sorties de l'eau et avant l'apparition des prêles et fougères. C'est pourquoi on les appelle des plantes primitives. Des plantes qui n'ont pas encore développé de tissus conducteurs spécialisés, ne peuvent pas se dresser et dépendent de l'eau pour leur reproduction et leur développement, ce qui explique pourquoi elles doivent se tenir à ras de terre. Les mousses ont gardé de cette époque lointaine leur fonctionnement et leur petite taille. On les appelle aussi des plantes pionnières, car dans le cycle de colonisation d'un milieu par les plantes, elles arrivent dans les premières. Elles créent par exemple sur une pierre un minuscule biotope, une poche d'humidité où se déposent et se transforment des petits débris, des bouts de feuilles, qui se mêlent de minéraux détachés du support, quand ce n'est pas la mousse elle-même qui se décompose. Certaines se décomposent par le bas autant qu'elles poussent par le haut. Et tout cela forme un humus, un genre de terreau, où pourront bientôt pousser d'autres plantes racinaires un peu plus exigeantes, comme le nombril de Vénus par exemple. En ville, vous pouvez aussi admirer la grimie en coussinet. Grimia pulvinata. Elle a la particularité de bien tolérer les pollutions et la sécheresse. La grimie forme des petits coussinets ronds de maximum 4 cm de diamètre et compacts pour bien retenir l'humidité. Ses touffes s'élèvent jusqu'à 2 cm de hauteur et lui donnent des allures de fourrure avec des reflets grisâtres à argentés par temps sec et vert foncé par temps humide. Les Anglais l'appellent la mousse hérisson. Nous n'avons que des traductions du latin pour nos mousses. Orthotrique apparenté, hypne soyeux, ceratodon pourpre, lunulaire commune, voire pas de traduction du tout, orthotricum diaphanum. C'est pas un nom ça ! C'est dire le peu de relations que nous entretenons avec elle. Et ça ne date pas d'hier. Écoutez plutôt ce qu'en disait l'encyclopédie Diderot et d'Alembert en 1751, citée par Véronique Brindeau dans son livre « Louange des mousses ».
Les botanistes divisent ces sortes de plantes en divers genres, sous lesquels ils constituent plusieurs espèces différentes, et même si nombreuses, que dans les environs de Paris, M. Vaillant en comptait jusqu'à 137. Mais comme elles n'ont aucune beauté, encore moins d'utilité, il serait inutile d'en faire l'énumération. Que dis-je ? Il faudrait trouver le secret de détruire toutes ces sortes de plantes si nuisibles, qui vivent aux dépens des arbres, les rendent malades et les font périr en dérobant, en interceptant leurs sèves par une infinité de petites racines.
Et avec ça, tout un arsenal de techniques d'éradication de ce mal végétal. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, grâce au travail du botaniste et médecin allemand Johannes Hedwig, considéré comme le père de la bryologie, que les mousses se font une place véritable dans la science botanique. On compte aujourd'hui environ 1000 espèces de mousses en France métropolitaine, 1800 en Europe et 13 000 dans le monde, ce qui en fait le deuxième plus grand groupe après les plantes à fleurs. Mais leur réputation est tenace. Et par chez nous, on prend beaucoup de soin à les déloger de nos toits, nos gouttières et nos trottoirs. Sortis d'un cercle réduit de spécialistes, qui se soucie du sort des bryophytes ? Vous aurez beaucoup de mal à en trouver dans les hypercentres, où on leur mène la vie dure, comme dans de nombreux jardins d'ailleurs. Pourtant, ce sont des plantes chlorophylliennes qui, elles aussi, contribuent, à leur échelle, à purifier l'air et participent à maintenir l'eau en milieu urbain. Elles représentent même un marché. On la vend en rouleau pour climatiser les intérieurs, couvrir les toits et les murs de nos maisons, car elles constituent une très bonne isolation thermique et acoustique. Leur utilisation par les humains n'est d'ailleurs pas récente. On se servait de certaines d'entre elles pour calfater les bateaux, calfeutrer les maisons, faire des cordes ou des matelas. On conservait des aliments dans des sphaignes, les mousses des marais. En Irlande, on a retrouvé du beurre datant de 2000 ans dans une tourbière. Et ce n'est pas tout. Les femmes se servaient de ces mêmes sphaignes comme protection périodique. Il se pourrait même que cet usage vienne de l'époque préhistorique. On a trouvé dans l'estomac de la momie Ötzi, découverte en 1991, les traces d'environ 35 espèces de mousses différentes. Mais on ne sait pas à ce jour si cet homme préhistorique en mangeait, s'en servait pour emballer ses aliments, pour protéger ses mains quand il utilisait son poignard, s'en servait de pansement ou autre. L'utilisation pour panser les plaies est quant à elle avérée dans les deux guerres mondiales, où l'on mettait à profit leurs propriétés absorbantes et homéostatiques. Et puis, on s'en est aussi pas mal servi comme papier toilette. Enfin, des mousses portent le nom d'hypne, en référence à hypnos, la personnification du sommeil. Parce que le célèbre botaniste Linné avait entendu dire qu'adopter un oreiller de mousse permettait de mieux dormir. Bon, pour faire des cordages ou éradiquer les insomnies, préférez les mousses belges ou irlandaises à celles des climats méditerranéens, qui ne leur sont pas très favorables. Privilégiez les contrées humides, comme le Japon, où on leur rend les hommages qu'elles méritent. Au pays du soleil levant, on les cultive, leur consacrant de magnifiques jardins. L'hymne national en fait mention, tout comme de nombreux poèmes, alors que nos imaginaires à nous, les Bouddhes, ou au mieux, guidés par Francis Ponge, ne les considèrent pas autrement que comme des terrains de tissu éponge, des paillassons humides.
Espace d'espèces.
Espace d'espèces, une série documentaire de Lucie Combe et Aurélien Caillot.
Top, je suis un petit passereau des jardins, habitué des mangeoires, originaire des forêts. On me rencontre aussi fréquemment dans l'espace urbain. J'ai le ventre jaune avec une cravate noire, de même que ma calotte et ma gorge. J'ai les joues blanches, les ailes vert olive avec une belle bordure bleue. Je suis... Eh oui, la mésange charbonnière.
Vous l'aviez, non ? C'est elle qui volait d'un arbre à l'autre au-dessus de votre tête. Attention à ne pas la confondre avec sa cousine, la mésange bleue, qui traîne souvent dans le même secteur. Celle-là est plus petite et se distingue par sa calotte, une sorte de bonnet, d'un beau bleu cobalt. Et si vous tendez l'oreille, vous vous apercevrez que leurs chants sont assez différents. Charbonnière, bleu. Charbonnière et bleu font toutes deux partie de ce cercle informel des mésanges qui ne correspond pas à un groupe au sens scientifique du terme et rassemble près de 70 espèces dans le monde issues de différentes familles. En France, elles sont 7. La charbonnière, la bleue, la nonnette, la huppée, la noire, la boréale et la mésange à longue queue. Nos deux acolytes sont assez faciles à observer. Ce sont les plus communes et les plus anthropophiles des mésanges. Comme elles peuvent vivre dans des habitats variés et qu'elles mangent un peu de tout, cela fait un moment qu'on les rencontre en ville. Pour l'ensemble de ces raisons, elles sont bien connues et observées par les scientifiques. Charbonnières comme bleues sont plutôt insectivores, mais se rabattent sur les graines en hiver, quand les insectes se font rares, ce qui explique qu'elles fréquentent assidûment les mangeoires que nous installons pour le plaisir de les voir picorer. En Angleterre, l'installation de mangeoires est un sport national. Près de 150 000 tonnes de nourriture dédiées aux oiseaux y sont commercialisées chaque année. Et les Britanniques dépensent à peu près deux fois plus d'argent que les autres Européens pour l'achat de mangeoires et de graines. Or, cet engouement aurait des conséquences. Une étude publiée dans la prestigieuse revue Science a en effet récemment montré que le bec des maisons charbonnières anglaises s'est allongé de près d'un dixième de millimètre depuis les années 70. Sur 13 millimètres, ça compte. Cet allongement n'est autre que le résultat d'une évolution génétique. Un variant dans la séquence de l'ADN responsable de la longueur du bec serait apparu, et ce, sur une période incroyablement courte. Les individus avec un bec plus long se nourrissent plus efficacement dans les mangeoires et semblent se reproduire mieux que leurs cousins d'Europe. Ceci expliquerait cela. Il semble que la sélection naturelle soit en cours sous nos yeux. Le rapport des mésanges à la nourriture fait par ailleurs parler la science depuis un bon moment. Plusieurs observations et expériences autour de cette thématique ont permis aux chercheurs de mettre en avant les capacités d'apprentissage de ces petits passereaux. Dans les années 20, dans le sud de Londres, on a observé que mésanges bleus et charbonnières développaient une technique pour ouvrir les capsules de bouteilles de lait laissées sur les pas de porte des maisons par les laitiers ambulants. En une douzaine d'années, ce sont les mésanges de toute l'Angleterre qui ont chopé le truc, et pas uniquement en imitant leurs camarades. Il a été montré que la simple observation d'une bouteille à la capsule ôtée permettait aux mésanges de déduire la méthode à utiliser. Cette capacité d'apprentissage leur permet aussi de goûter sans trop se tromper à de nouvelles proies potentiellement intéressantes. Récemment, une équipe de l'université de Cambridge a montré à des groupes de mésanges des vidéos de congénères occupés à manger des chenilles inconnues, marquées d'un signe visuel distinctif et aspergées d'une solution amère. Sur la vidéo, on voit les oiseaux manifester leur dégoût, s'essuyer la tête, la secouer. Quand les scientifiques ont présenté ensuite aux mésanges spectatrices un mélange comprenant des chenilles marquées du même signe visuel que sur la vidéo et d'autres sans marque, elles ont soigneusement évité les marquer. Pas folle la mésange. On les a vues par ailleurs faire preuve d'une grande malice pour se remplir l'estomac, ou celui de leurs petits. Utiliser une aiguille de pin pour sortir des larves d'un tronc. Tapoter des ruches pour faire sortir les abeilles et les manger. Les mésanges bleues, prévoyantes, font des réserves pour l'hiver. À la fin de l'été et l'automne, un couple peut stocker jusqu'à 14 kg de chenilles en les cachant sous des écorces, des mousses ou dans les cavités des arbres. Les charbonnières, elles, ne font pas de cache. Elles préfèrent aller piller celles des autres. Ambiance. Parce que ces petites mésanges si mignonnes ne sont pas franchement pacifiques. Comme dans les BD d'Alessandro Pignocchi, elles n'hésitent pas à mener des actions radicales. En temps de disette et de carence en protéines, notamment par grand froid, il arrive à nos amies charbonnières d'aller décrocher de leur support des chauves-souris en hibernation et de profiter qu'elles sont amorphes pour leur fracasser le crâne et leur bouffer le cerveau, riche en nutriments. Sympa, non ? Les scientifiques ont aussi observé ces dernières années un nombre croissant de cadavres de gobe-mouches noires, des petits oiseaux, à proximité des nids des maisons charbonnières. Une étude hollandaise a même montré que la mortalité de ces petits passereaux migrateurs avait augmenté de 9% entre 2007 et 2016. Alors, tu es en série les mésanges ? Pas pour se nourrir cette fois. La cause en serait le réchauffement climatique. Pour comprendre, il faut faire un petit détour par la nidification. Écoutez plutôt. Les couples de charbonnières, généralement fidèles, nichent année après année dans un même secteur d'une superficie de 3 à 4 hectares. Entre avril et juin, elles s'installent dans une cavité, trou d'arbres, murs, nichoirs, pour y construire leur nid. La femelle y pond entre 5 et 12 œufs. Chacun a un jour d'intervalle et les couvent environ 2 semaines. Les petits restent ensuite au nid, entre 16 et 22 jours après l'éclosion, puis s'envolent. Il arrive souvent que madame fasse une deuxième couvée, qui se fera dans un nouveau nid construit pour l'occasion. Mais les mésanges nidifient de plus en plus tôt. Une étude anglaise a montré que depuis 1961, elles ont avancé leur date de ponte de plus de 2 semaines. Depuis 61 ? Comment on sait ça ? On vous l'a dit. Les mésanges sont objets d'études depuis bien longtemps, notamment en Angleterre, où une équipe de l'université d'Oxford suit la population de mésanges charbonnières du bois de Whiteham depuis 1947, élaborant ainsi ce qui est la plus longue étude au monde d'une population animale baguée individuellement. Et les scientifiques ont découvert que si les mésanges nidifient 15 jours plus tôt, c'est parce que la période d'abondance des chenilles dont elles se nourrissent s'est elle aussi décalée avec la hausse des températures et l'émergence plus précoce des bourgeons sur les arbres. Après étude, il ressort de cette évolution que les femelles mésanges sont capables d'ajuster leur période de reproduction en fonction de la chaleur printanière. Mais quel rapport avec le gobe-mouche noir ? Eh bien, celui-ci niche dans le même type d'habitat que les mésanges charbonnières, mais il est migrateur. Et les périodes de nidification de ces deux espèces, qui auparavant se succédaient, en viennent à se chevaucher. En clair, quand le petit gobe-mouche noir revient de voyage pour retrouver son spot, il tombe sur une femelle charbonnière en couvaison et se fait défoncer par son mec. Aïe ! On l'a dit, ça fait longtemps que les mésanges bleus et charbonnières vivent à proximité des humains et se sont acclimatées en ville. L'hiver, elles y trouvent de la nourriture disponible dans les mangeoires et des températures plus douces qu'à la campagne. Elles y attrapent moins de parasites dans leur nid. Ils sont moins victimes des pesticides et de leurs prédateurs directs, l'épervier, même si elles restent la cible des chats. Les différentes observations montrent que leur implantation dans l'espace urbain a induit un certain nombre d'évolutions, tant dans leur apparence que dans leur comportement. Généralement plus petites que leurs cousines de la campagne et de couleur plus terne, elles sont aussi plus aventureuses, avec une néophobie réduite, c'est-à-dire qu'elles ont moins peur de l'inconnu, de quelque nature qu'il soit. Reste à savoir si ces évolutions sont le signe d'une adaptation génétique avantageuse qui favoriserait les mésanges urbaines présentant ces caractéristiques ou si ce sont plutôt les manifestations de problèmes physiologiques, de carences ou de changements contraints de pratiques. Si la population des mésanges bleus semble très légèrement décroître en ville, celle des charbonnières est stable. Pour autant, y vivent-elles bien ? Se sont-elles adaptées au contexte urbain ou le subissent-elles ? Plusieurs équipes de chercheurs planchent sur le sujet à travers le monde. Le laboratoire Évolution et diversité biologique lié à l'université de Paul Sabatier de Toulouse. Le centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. L'Edward Gray Institute of Field Ornithology à Oxford. Le Max Planck Institute of Ornithology à Munich et d'autres. À Toulouse, les équipes scientifiques ont installé des nichoirs dans le cadre d'une grande étude sur le suivi des populations et les dynamiques de reproduction des mésanges charbonnières. Pour effectuer des comparaisons pertinentes, ils suivent depuis 7 ans des populations en zone rurale, en zone périurbaine, dans le jardin des plantes et le jardin japonais, mais aussi dans une multitude de jardins de particuliers toulousains. Ils ont pour ce faire lancé un appel aux habitants et habitantes, les invitant à participer à l'étude en acceptant un nichoir chez eux et ont reçu plus de 1000 réponses. L'étude est toujours en cours, mais les tendances qui se dessinent pour l'instant ne semblent pas vraiment aller vers une adaptation positive des mésanges à la vie citadine. En zone urbaine, elles ont une mortalité plus importante. Elles pondent moins d'œufs. Les poussins qui en naissent ont un poids et une taille inférieurs à ceux de leurs cousins ruraux et restent plus petits en grandissant. Elles semblent également en moins bonne santé que leurs congénères de la campagne. Les résultats indiquent qu'elles suivraient la même évolution que celle observée chez les moineaux. En raison de la moindre diversité de nourriture et d'une présence non négligeable d'aliments transformés, leur microbiote intestinal serait très pauvre, avec des fonctions métaboliques altérées. D'autres phénomènes ont été observés qui semblent corroborer cette hypothèse d'une adaptation malheureuse. Ainsi, les mésanges de la ville ont un chant plus aigu et moins complexe que celui des mésanges de campagne, car elles peinent à se faire entendre dans le vacarme ambiant. Il semble qu'elles pâtissent de cette adaptation contrainte, car dès qu'elles en ont la possibilité, comme cela a été le cas lors du confinement, elles reprennent la complexité de leur chant. Même si cela n'a pas fait l'objet d'une étude, c'est ce qui a été observé par une équipe états-unienne sur un autre passereau, le bruant à couronne blanche, et beaucoup pensent qu'il en irait de même pour les charbonnières. Mais si les mésanges charbonnières, comme celles observées à Toulouse, ont une plus grande mortalité que celles de la campagne, comment expliquer que leur population ne décline pas ? Il est encore tôt pour le dire. Mais une des hypothèses serait celle de flux de migration réguliers de mésanges rurales vers la ville. Le miroir aux alouettes de l'espace urbain aveuglerait donc même les oiseaux.
Espace d'espèces.
Petites échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.